Céline Mericelli s'entretient pour Radio Éthique avec Philippe Lahil.
Vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Vivre simplement pour vivre mieux » ou « La simplicité volontaire en 130 conseils pratiques » aux éditions d'Angle. Est-ce que vivre simplement, c'est être décroissant ?
Alors, c'est effectivement une forme de décroissance. Je pense que vivre simplement, enfin la simplicité volontaire, est une décroissance à l'échelle individuelle. Donc il y a un mouvement qui s'appelle la décroissance, qui est une théorie plutôt politique ou économique. Par contre, la simplicité volontaire, c'est choisir soi-même, à son niveau, au niveau de sa famille, d'adopter un mode de vie plus sobre.
Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cet ouvrage ?
Oh, parce que tout simplement, j'ai adopté ce mode de vie depuis longtemps. Mes parents eux-mêmes l'avaient choisi, donc j'ai eu, je pense, de bons modèles. Et puis tout simplement parce que, enfin, l'envie d'écrire l'ouvrage, c'est pour faire partager au plus grand nombre ce concept qui veut que, on le sait très bien, ce n'est pas l'accumulation de biens matériels qui va faire le bonheur. Et on ne cesse de le dire, et pourtant on est tous plus ou moins prisonniers de cette société d'hyperconsommation. Et il est temps aujourd'hui d'apprendre à contrôler ces pulsions d'achat, à consommer plus intelligemment, à ne plus se laisser berner par la publicité, etc.
Et pourquoi est-ce si urgent, selon vous, de se tourner vers un mode de vie plus simple ?
On va vers le mur, c'est clair, on ne peut pas... Nous habitons une planète qui est finie, géographiquement limitée, et on voudrait connaître une croissance économique illimitée, une démographie illimitée, dans un monde qui, lui, est fini. On va rapidement s'approcher de l'asphyxie, on y est tout proche, donc je pense qu'il est devenu urgent de décélérer. Mais ce discours-là, ce ne sont pas les gouvernants actuels ou qui soient autour de cette planète qui vont le tenir. Ils sont dans une logique de toujours plus de croissance. Et je crois que il faut chacun se prendre en main et chacun adopter un mode de vie un peu plus sobre, pour que ça ait des conséquences à plus grande échelle. Je pense qu'il y a deux façons d'agir. Soit on fait confiance aux politiques, aux économistes, et on se dit, ils ont la science infuse, ils vont nous concocter de nouvelles théories et tout va aller mieux. Et puis en fait, on ne change pas son mode de vie. Mais je trouve ça très peu responsabilisant. Ou alors on se dit, écoutez, au diable peut-être ce que décident nos politiques, mais moi je vais faire ma part. C'est ce que Pierre Rabhi appelle la part du colibri. Chacun fait sa part.
Donc votre ouvrage propose des conseils pratiques sur la consommation, le logement, les déplacements, bref, des sujets qui nous concernent au quotidien, mais aussi sur un sujet auquel on pense moins, que vous intitulez « Quitter ce monde en toute simplicité ». Vivre simplement, c'est aussi partir simplement ?
Oui, oui, oui. Moi, j'ai des souvenirs de personnes qui ont eu un mode de vie très simple et puis qui ont quitté ce monde, et les enfants, l'entourage, la famille est allé acheter un cercueil très luxueux parce que il fallait quand même montrer qu'on avait les moyens et assister à des funérailles qui étaient sauf le reflet de la vie du défunt. Et ça m'a amené à cette réflexion où je pense que quand on a vécu simplement, on peut très bien imaginer de quitter ce monde en toute simplicité. C'est ce qui m'a inspiré ce dernier chapitre.
Donc il est important de le faire savoir à ses proches.
Bien sûr.
Tout comme la question du don d'organes que vous abordez dans ce chapitre-là.
Oui, en fait, je crois qu'il faut organiser ces funérailles de la même manière, dire à ses proches ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut pas. Si l'on a été athée toute sa vie, on n'a peut-être pas envie de se retrouver au milieu d'une église. Alors, je donne un autre exemple dans ce chapitre qui est tout à fait intéressant et qui se passe en Angleterre, où ils ont créé des cimetières forêts-cimetières. Où vous pouvez vous faire enterrer dans un sous-bois. Il n'y a pas de stèle, de dalles en marbre ou quoi que ce soit, éventuellement une petite croix en bois. Et voilà, et vous reposez dans un sous-bois. Aujourd'hui, ce n'est pas possible dans notre pays, mais je pense que ça viendra tôt ou tard.
Donc plus globalement, chaque sujet que vous abordez est attayé d'exemples concrets. Chaque exemple, vous les avez notés de 1 à 5 cœurs pour leur gain écologique, économique et en mieux-être. Pourquoi avoir procédé de la sorte ?
Il y a des comportements qui vont avoir une incidence sur le portefeuille, d'autres qui vont avoir une incidence sur l'environnement, l'écologie, et d'autres sur le mieux-être. En fait, adopter la simplicité volontaire, ça ne veut pas dire adopter la pauvreté ou le mal-être, hein, pas du tout. Il y a quantité de conseils que je propose dans cet ouvrage qui, si vous les appliquez, vont vous donner plus d'épanouissement, un mieux vivre sensible. Donc vous allez reprendre la main sur votre vie, vous allez retrouver du temps libre, vous allez occuper ce temps libre à des activités beaucoup plus motivantes, beaucoup plus actives. Mm-hmm. Donc c'est un vrai mieux-être. Donc j'ai voulu le codifier, le quantifier pour chaque proposition.
Et pour appliquer ces conseils, justement, à la fin de l'ouvrage, vous proposez un calendrier qui peut aider le lecteur à planifier ses résolutions. C'est pour mieux ancrer chaque changement ?
Oui, pour deux raisons. D'abord, le fait d'écrire est une façon de s'engager, de dire « cette proposition m'a plu ». Alors, le but n'est pas de les mettre toutes en pratique, parce que je suis bien conscient, moi-même, je ne les mets pas toutes en pratique, je suis bien conscient que selon son cadre de vie, sa famille, ses amis, etc., tout le monde est différent, certaines propositions vont vous convenir, d'autres non. Mmh. Et dans la mesure où vous en trouvez certaines qui soient sensées, que vous avez envie d'appliquer, le fait de les noter et de les planifier est déjà un premier pas vers leur réalisation. Et ensuite, l'importance de le planifier parce que vous pouvez avoir envie de tout faire tout d'un coup. Vous dire ça c'est bien, mais ça aussi, et ça aussi, et ça aussi. Mmh. Et ça va avoir pour effet de bouleverser trop rapidement votre mode de vie. Je pense qu'il faut y aller doucement, progressivement, surtout lorsqu'on ne vit pas seul, si on est en couple, en famille. Mmh. Ce sont des décisions à prendre ensemble, sinon on risque d'aller au clash. Donc voilà l'utilité de ce petit calendrier à la fin de l'ouvrage.
Et mener une existence simple en appliquant quelques-uns de ces conseils, ou tous si c'est possible, peut dégager un temps libre assez important. En fait, vous proposez en quelque sorte de créer un manque pour mieux arriver à se retrouver ?
Alors, créer un manque, oui. Écoutez, c'est ce que pratique. Je fais une comparaison avec dans le domaine de la spiritualité. Mais des moines, qu'ils soient franciscains ou bouddhistes ou autres, vont pratiquer le dépouillement, la sobriété, pour justement créer une ouverture intérieure. Alors, c'est vrai que sans notion maintenant de mystique, mais si vous créez un certain dépouillement autour de vous, que vous avez un mode de vie plus simple, vous allez être davantage à l'écoute de ce qui a du sens, vous allez davantage réfléchir, davantage lire, vous adonner à des choses qui vous passionnent, vous cultivez et accéder comme ça à un épanouissement. Ça, c'est évident. D'ailleurs, je pense que les personnes qui sont toujours... qui ont un comportement addictif à la consommation, toujours plus, toujours consommer plus, c'est le reflet peut-être d'un appauvrissement intérieur. Donc ils se donnent l'illusion de vivre par la possession de biens matériels. On a une richesse intérieure, on a plus besoin de vivre par l'objet.
Mais là, dans les exemples que vous proposez, ce sont plus des activités d'épanouissement personnel.
Chacun va trouver l'activité qui lui convient. Je pars du principe que si on adopte ce mode de vie plus sobre, les Italiens appellent ça la sobriété heureuse, si on l'adopte, naturellement, on va se trouver de nouveaux centres d'intérêt. Alors, est-ce qu'ils iront vers des loisirs créatifs, vers de la culture, vers du théâtre, vers du cinéma ? Ça dépendra de chacun. Je ne dis pas il faut se diriger vers telle ou telle voie. Faites l'expérience de la sobriété et vous verrez, vous vous en porterez que mieux.
Est-ce que vous avez un exemple de conseil à prodiguer à nos auditeurs, selon vous, qui serait simple à appliquer parmi tous ceux que vous avez cités dans votre ouvrage ?
C'est le premier dans le livre parce que je crois que quand on s'engage dans cette voie, il faut commencer par s'affranchir un petit peu de cette société d'hyperconsommation et puis de nos pulsions d'achat, de nos lubies. Et je propose, par exemple, tout simplement de se procurer un petit carnet. Et lorsque vous avez envie de quelque chose, au lieu d'acheter cet objet-là immédiatement, vous le notez dans le carnet et vous vous imposez une semaine de réflexion. Vous verrez que au bout d'une semaine, il y a une chance sur deux pour que vous n'ayez plus du tout envie de cet objet. C'était bien une lubie passagère.
Et si on en a encore envie ?
Et voilà. Et si au bout d'une semaine, vous en avez toujours envie, c'est très bien. Achetez-le. C'est que ça correspond probablement à un vrai besoin. Et au moins, pendant cette semaine-là, vous aurez pu réfléchir sur cet achat, vous aurez pu comparer les prix, vous aurez pu aller sur Internet, comparer sur différents sites la qualité de l'objet, des différents objets, et faire un achat intelligent. Voilà un premier conseil. J'en donne un deuxième tout simple par rapport à la télévision. Je crache pas sur la télévision. La télévision, on peut y trouver, comme sur Internet, on peut y trouver le meilleur comme le pire. Et je propose d'aller chercher le meilleur. Mais on passe en moyenne 4 heures par jour devant la télévision, entre 3h30 et 4 heures, ce qui est considérable. Quand vous recevez votre programme de la semaine, feuilletez-le et vous notez les quelques émissions que vous avez vraiment envie de voir. Riche de sens, présente un intérêt, ça peut être aussi sur le plan de la distraction. Hein. Mais vous notez ces émissions-là et vous ne regardez que celles-là. Quand cette émission-là est terminée, c'est inutile d'aller zapper sur les autres chaînes pour voir ce qui s'y passe. Vous éteignez le poste et vous passez à autre chose.
On devient plus sélectif.
En ce qui me concerne, je dois passer à peu près 2 heures par semaine devant la télévision. Donc vous imaginez le temps que ça dégage.